Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici Washington, la voix de l'Amérique, Camille Groditi avec vous en compagnie d'Anne Robertson en ce vendredi 12 septembre. Bonjour Anne.
Bonjour Camille, bonjour à tous.
Après 2 ans d'absence, les États-Unis rouvrent leur ambassade à Bangui. Les leaders du Congrès ont réagi au discours du président Obama sur la menace posée par les militants islamiques et sa stratégie pour les défaire.
Les dirigeants républicains et démocrates de 2 chambres n'ont laissé aucun doute sur leur soutien.
Lionel Gaïman nous offrira des précisions au Togo. Le premier ministre Artem Ahomey-Zounou a rencontré une délégation du collectif Sauvons le Togo et de la coalition Arc-en-Ciel.
La composition équilibrée de la CENI ne peut pas refléter la composition de l'Assemblée nationale, mais doit rentrer dans l'esprit de la politique globale et de l'accord de Ouagadougou.
Lola Akomatsri a joint Jerry Tahama, porte-parole de la délégation de l'opposition, et puis une tempête solaire s'approche de la Terre. Les États-Unis ont annoncé la réouverture de leur ambassade en République centrafricaine après une absence de près de 2 ans. Dans une lettre au Congrès jeudi, le président Barack Obama a déclaré que 20 soldats américains sont arrivés en Centrafrique mercredi pour établir un périmètre de sécurité à l'ambassade des États-Unis à Bangui.
Monsieur Obama n'a pas précisé de date pour l'arrivée de nouveaux membres du personnel diplomatique. Cependant, les soldats sont considérés comme la première étape vers le rétablissement de la mission fermée fin 2012, alors que les rebelles menaçaient de renverser le gouvernement. Cette décision intervient alors que les Nations Unies commencent une nouvelle mission de maintien de la paix dans le pays où le gouvernement peine à rétablir son autorité.
La Cour pénale internationale a lancé un mandat d'arrêt à l'encontre d'Abdallah Banda, un chef rebelle du Darfour âgé de 51. Un an, à qui on reproche son rôle dans une attaque mortelle contre des casques bleus de l'Union africaine en 2007. La CPI a noté que le Soudan a refusé de livrer Abdallah Banda aux Pays-Bas en novembre 2013 pour qu'il réponde de crimes de guerre. Il a été inculpé en 2009 d'avoir participé à une attaque avec d'autres commandants contre la base de la mission de l'Union africaine au Soudan stationnée à Haskanita.
Des dirigeants de Bama, dans le nord du Nigeria, démentent que l'armée a repris la ville aux militants de Boko Haram, comme l'affirme le gouvernement. Le chef de l'association de développement de Bama, Mohamed Hassan, a déclaré jeudi que Bama est toujours contrôlée par les militants islamistes et que les habitants ont désespérément besoin d'aide. Boko Haram a attaqué Bama en début de matinée le 1er septembre. L'armée avait déclaré qu'elle avait repoussé les militants, mais les habitants affirment que les insurgés ont finalement maîtrisé les soldats et pris le contrôle de la ville.
Selon l'agence France Presse, la ville de Maïdougouri serait encerclée par les islamistes de Boko Haram qui prépareraient une attaque imminente. Claire Morin-Gibourg.
Le Forum des anciens du Borno, composé d'anciens responsables politiques et militaires et de dirigeants locaux, tire la sonnette d'alarme. Selon ce groupe, Boko Haram a complètement encerclé la ville de Maïdougouri et serait sur le point d'attaquer cette ville clé du nord-est du Nigeria. Les anciens du Borno ont réclamé au gouvernement fédéral l'envoi en urgence de renforts militaires. Toutes les routes menant à Maïdougouri ont été rendues impraticables par les insurgés et les principaux ponts et routes ont été détruits. L'électricité est coupée dans tout l'état de Borno depuis maintenant 3 mois et toutes les activités économiques sont au point mort. Maïdougouri, capitale de l'état de Borno, a une importance toute particulière pour Boko Haram. En 2002, c'est là que le mouvement islamiste a été créé dans le but de combattre la corruption, un mouvement qui basculera plus tard dans la lutte armée. Selon le Forum des anciens du Borno, plus de la moitié des 4,1 millions d'habitants de cet état ont trouvé refuge à Maïdougouri après avoir été chassés par les violences de leur ville et leur village. La ville a ainsi aujourd'hui quadruplé sa population. Les déplacés vivent dans des installations de fortune et la famine est imminente, les récoltes ayant été empêchées par les violences. Ces dernières semaines, Boko Haram a pris de nombreuses villes et villages dans l'état de Borno et de ses voisins Yobe et Adamawa.
La Croix-Rouge internationale entend étendre ses opérations contre l'épidémie d'Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. En RDC, la maladie reste contenue dans la zone de Boende, dans la province de l'Équateur, mais selon les autorités, elle continue de progresser. Chouchou Kaoua.
Depuis le début de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, la Croix-Rouge a formé quelque 3 000 volontaires. Elle se propose de porter ce total à plus de 5 600. Pour financer ce projet, ainsi que les efforts de communication et de sensibilisation, l'ONG a revu à la hausse ses besoins financiers, qu'elle estime maintenant à 25 millions d'euros. Les gens meurent. Si nous voulons sérieusement arrêter l'Ebola, nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre avant de renforcer notre réponse, a déclaré Alassane Senghor, directeur Afrique de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En République démocratique du Congo, autre pays touché par l'Ebola, les autorités ont situé le dernier bilan, hier, à 37 décès et 66 cas confirmés ou présumés. Développement préoccupant, des cas d'Ebola ont été enregistrés à Boende, hors du secteur mis en quarantaine de Djerra.
Le vendredi et le samedi sont jours de week-end en Mauritanie, pays à majorité musulman, mais voilà, cela va changer le 1er octobre. Selon le ministre du Travail qui s'exprimait au cours d'un point de presse à l'issue d'un conseil des ministres, le week-end va débuter le samedi et non plus le vendredi à partir d'octobre. But de l'opération, favoriser les échanges économiques avec les principaux partenaires commerciaux du pays en Asie de l'Est et en Europe.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Selon la CIA, l'État islamique compte entre 20 000 et 31 500 combattants sur le terrain en Irak et en Syrie, soit plus du double que la précédente estimation de 10 000 miliciens. Ces nouveaux chiffres reflètent les efforts de recrutement de l'État islamique depuis juin suite à ses succès sur le champ de bataille et la déclaration d'un califat en Irak et en Syrie sous la direction de l'Irakien Abu Bakr al-Abdadi.
Dans un discours à la Nation mercredi soir, le président Barack Obama a promis d'éradiquer l'État islamique. Jeudi, le chef de la diplomatie américaine John Kerry était à Jeddah en Arabie Saoudite pour recueillir le soutien de 10 pays arabes, dont l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Irak et l'Égypte, au plan dévoilé par M. Obama.
Les patriarches des églises orientales ont rencontré le président Obama jeudi à l'issue d'un sommet pour discuter des attaques contre les chrétiens en Syrie et en Irak et ailleurs au Moyen-Orient. Sarah Diaby.
Pour la première fois, les dirigeants des grandes dénominations maronites, coptes, arméniennes et melkites se sont réunis à Washington lors du sommet inaugural du groupe In Defense of Christians, un groupe du Moyen-Orient. Les dirigeants des églises qui ont été en désaccord par le passé sur la théologie et la pratique religieuse se sont unis pour mettre en évidence la situation dramatique de leurs co-religionnaires. Ces derniers mois, les chrétiens et autres minorités ont fui les militants de l'État islamique en Irak et en Syrie qui les obligeaient à se convertir à l'islam sous peine de mort. L'année dernière, des dizaines d'églises coptes en Égypte ont été détruites par les partisans des frères musulmans. Le patriarche maronite Béchara Boutros Rahi a affirmé que la violence contre les chrétiens est assez pénible. Mais ce qui est encore plus difficile, c'est que cette tragédie humaine a lieu sous les yeux du monde qui, jusqu'à présent, n'a fait que regarder simplement ces atrocités atteindre le point de non-retour. Ce qui se passe au Moyen-Orient est une manifestation concrète du mal, a-t-il déclaré au Capitole.
François Hollande est en Irak aujourd'hui. Le président français va marquer l'appui de son pays à la campagne internationale contre l'État islamique. Jean-Roger Bion.
En se rendant à Bagdad, le président François Hollande entend montrer le soutien de son pays, non seulement au nouveau gouvernement de l'Irak, mais aussi à la lutte contre l'État islamique devenu une menace rampante au Moyen-Orient et en Occident. Laurent Fabius est le ministre français des Affaires étrangères.
Nous avons dit que, si nécessaire, nous participerons à telle ou telle action militaire. En Syrie, la situation est à la fois la même et différente. Dans la mesure où Daesh est transnational, Irak, Syrie, pour ne pas parler d'autres pays voisins, il faut, si l'on veut lutter contre ces égorgeurs, être présent en Irak, mais aussi s'intéresser à la Syrie. Mais du point de vue juridique comme du point de vue gouvernemental, la situation est évidemment différente.
Le président américain Barack Obama a annoncé mercredi une campagne intensifiée contre l'État islamique visant à affaiblir et finalement détruire le groupe. La France a promis de prendre part à une coalition internationale si et seulement si l'Irak et les Nations Unies donnent leur accord. Il y a une petite différence en raison de la position de la France sur la Syrie, mais globalement les objectifs sont exactement les mêmes. Autrement dit, nous devons détruire définitivement l'État islamique estime Jean-François Dagouzan, directeur adjoint de la Fondation pour les recherches stratégiques basée à Paris. Le voyage du président Hollande intervient au milieu d'un ballet diplomatique. Paris accueille lundi une conférence internationale pour coordonner les efforts dans la lutte contre l'État islamique.
Enfin, les services météorologiques spatiaux des États-Unis ont averti que deux éruptions solaires pourraient compromettre les communications sur Terre dans les jours à venir. Suite à une éruption solaire particulièrement intense mercredi, la NASA a confirmé qu'un ouragan de particules s'éloigne du Soleil et pourrait affecter les satellites en orbite autour de la Terre dès vendredi.
Merci Anne Albertson, au micro Camille Grosdidier pour Le Monde aujourd'hui sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Ici Washington, il est 6h11, temps universel. Les leaders du Congrès américain ont exprimé leur soutien à des frappes contre l'État islamique au lendemain du discours à la nation du président Barack Obama sur la menace posée par ses militants islamiques et sa stratégie pour les défaire. Lionel Gaïma.
Les dirigeants républicains et démocrates de deux chambres n'ont laissé aucun doute sur leur soutien. Le démocrate Harry Reid, leader de la majorité au Sénat.
But it falls upon us, Congress and the American people, to rally behind the president.
Il nous incombe à nous, Congrès et peuple américain, de nous ranger derrière le président et sa stratégie décisive. Il n'y a pas de troupes au sol et c'est comme ça que ça doit être. Je suis sûr que nous mettrons de côté nos divergences politiques et travaillerons ensemble pour donner à l'administration les moyens dont elle a besoin pour affronter directement l'État islamique. Son collègue Mitch McConnell, leader de la minorité républicaine au Sénat, a déclaré que la nation doit se préparer à un long engagement. Je suis heureux que le président ait mis un nouvel accent sur l'effort contre l'État islamique. Il doit s'attaquer directement à cette responsabilité. Un travail sérieux attend ce Congrès et le prochain Congrès, ainsi que la prochaine administration, dans le cadre de cet engagement, qui nécessitera des années pour défaire l'État islamique. Malgré ce large soutien bipartisan, il y a divergence de vues sur ce qui sera requis. Le républicain John Boehner, président de la Chambre des représentants, estime qu'il faut plus que des frappes aériennes. Un F-16 n'est pas une stratégie et des raids aériens seuls ne suffiront pas pour réaliser nos objectifs. Le président indique clairement qu'il ne veut pas de troupes au sol. Eh bien, les bottes de quelqu'un devront être sur le terrain. Le sénateur républicain Lindsey Graham est d'accord. Je ne vois pas comment on pourrait battre ces gens-là sans l'apport terrestre américain en Irak et en Syrie. Si nous nous en prenons à l'État islamique et venons à perdre, nous ouvrirons les portes de l'enfer. Cela a valu à M. Graham une riposte cinglante de la sénatrice démocrate Barbara Boxer qui appuie l'appel du président pour une coalition internationale contre l'État islamique.
Beware of the people here who were the cheerleaders of the Iraq war.
Méfiez-vous des gens qui étaient les turiféraires de la guerre en Irak et qui veulent maintenant que ce président envoie des troupes au sol. Ce n'est pas la bonne solution et nous l'avons appris avec 4000 morts. Des membres du Congrès ont reçu des briefings à huis clos sur les aspects spécifiques de la stratégie de M. Obama. Et il y a encore des questions sur son financement et un éventuel vote formel du Congrès pour autoriser le recours à la forme.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde. Camille Grosdidier pour Le Monde aujourd'hui. Côte d'Ivoire, les audiences publiques annoncées par la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation qui ont démarré à Abidjan ne rencontrent pas l'assentiment de beaucoup d'Ivoiriens. Ils estiment que le mode opératoire envisagé a changé. Leurs appréciations ont été recueillies par notre correspondant à Abidjan, Germaine Dri.
Ouvertes lundi, les audiences publiques de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation se poursuivent sans les journalistes et en silence dans le pays. Une méthode qu'Abou Adams trouve non conforme.
C'est un peu paradoxal quand même. Une audience publique qui n'est pas ouverte à la presse, moi je ne pense vraiment pas que ça puisse donner vraiment des résultats probants. Parce qu'on n'a pas de cadavre dans les placards au point de vouloir fermer à la presse, au grand public, une audience qui est dite publique. Je ne pense vraiment pas qu'il y ait quelque chose à cacher en l'état actuel de la chose après la crise que nous avons connue.
Pour Guillaume Gbato, les audiences se déroulent sans les populations qui sont les véritables victimes.
Je suis un peu resté sur ma faim par rapport à la méthode elle-même. Et j'ai le sentiment que c'est fait un peu en vase clos et on ne sent pas que la population est vraiment impliquée. Parce que ça devait être une étape importante du processus de réconciliation, du processus de retour à la normale. Or, on a l'impression que l'immense majorité de nos compatriotes ne se sent pas concernés. On n'a pas senti une vraie campagne de communication autour. Cette étape me semblait importante. Je trouve que c'est un peu dommage.
Nazer Seri pense que rien n'est à cacher si l'on cherche la vérité.
Je suis surpris de ce mode opératoire. Si nous voulons nous réconcilier et que cette réconciliation doit passer par la vérité, que veut-on cacher à la population en faisant une opération diurne mais nocturne? Que veut-on cacher? Je reste beaucoup sur ma faim.
Quant au président du groupe parlementaire Dialogue, il recommande la prudence. Pour lui, les plaies ne sont pas encore cicatrisées. Adolphe Straka.
Il y a eu la guerre, il y a eu des atrocités, il va y avoir des déclarations ou des faits qui vont choquer. Ces faits ne doivent pas être à la vue de la jeunesse, de tout le monde. Donc je pense que ce n'est pas tout qu'on montre à la télévision. Ce n'est pas tous les faits qui sont susceptibles de créer d'autres actes qu'il faut montrer. Et je pense que ceux qui ont décidé de ne pas les montrer pour le moment ont certainement leur raison. Il faut penser à la nation, il faut penser à panser les plaies aussi.
Germain Dri, Abidjan, la voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
Au Togo, le Premier ministre Artem Ahomezounou a rencontré hier une délégation du collectif Sauvons le Togo et de la coalition Arc-en-Ciel. L'opposition réclame la suspension des travaux de l'actuelle commission électorale et la nomination de ses membres conformément aux accords de Ouagadougou signés en 2006. Lola Akomatsri a joint depuis Lomé Géry Tahama, porte-parole de la délégation de l'opposition.
Il y avait trois points sur lesquels l'opposition voudrait qu'on ait des discussions avec le gouvernement. Le premier, c'est la nécessité de suspendre les activités de la CENI actuelle, car ce n'est pas cette CENI-là qui sera menée à conduire les élections présidentielles 2015. Le deuxième élément concernait, bien entendu, la composition équilibrée de la CENI, puisque vous savez que depuis 2006, il y a un accord à Ouagadougou qui précisait une organisation équilibrée entre le pouvoir en place et l'opposition au niveau de la CENI. Nous voulions nous assurer que cet esprit était encore en cours. Et le troisième élément, c'est qu'on s'est rendu compte qu'à plusieurs reprises, le gouvernement avait fait une intrusion dans les prérogatives de la CENI et il nous semblait important de garantir à la CENI, que ce soit celle qui est actuellement là ou celle qui a venu demain, son autonomie et son indépendance. Bien entendu, il y a la question aujourd'hui de le renouvellement de la Cour constitutionnelle. Donc ça a été aussi un sujet sur lequel on a discuté avec le Premier ministre.
Et si vous parlez de représentation équilibrée, est-ce que vous voulez aujourd'hui que cette représentation reflète l'Assemblée nationale? Ou est-ce que cela doit refléter les parties prenantes au dialogue qui a eu lieu récemment avec le gouvernement?
La composition équilibrée de la CENI ne peut pas refléter la composition de l'Assemblée nationale, mais doit rentrer dans l'esprit de l'accord politique global et de l'accord de Ouagadougou, où l'ensemble des formations politiques s'étaient entendues sur la nécessité d'avoir une représentation la plus grande possible des forces politiques et même de la société civile qui est en place. L'actuel code électoral reprend les éléments de l'accord de Ouagadougou, qui fait qu'en réalité, si nous appliquons les textes, la CENI ne saurait être représentative de la composition de l'Assemblée nationale, mais elle va être représentative de l'ensemble des forces vives de la nation, à savoir les partis politiques parlementaires, les partis politiques extra-parlementaires et surtout les représentants de la société civile.
Et est-ce que vous avez eu l'impression que le PM a été favorable à votre requête?
Ce que nous avons retenu, c'est qu'il y a un engagement que le PM a pris sur la plupart des demandes que nous avons adressées. Vous savez que lundi, l'Assemblée nationale a tenu une plénière pour justement discuter des questions de la composition des CENI. Et donc lundi, nous verrons si l'ensemble des préoccupations que nous avons exposées au Premier ministre et à son équipe ont réellement été prises en compte.
Lola Akomatsri s'entretenait avec Géry Tahama, porte-parole de la délégation de l'opposition au Togo.
La Voix de l'Amérique au Togo sur Canal FM à Lomé, sur Radio Tchaudio à Sokodé, et sur Radio Excelsior à Atakpamé.
Camille Grodidi avec vous pour Le Monde aujourd'hui. Il est 6h19, temps universel. Au Sénégal, les militants des droits humains et des médecins réclament l'accès à l'avortement médicalisé dans certains cas, comme des cas de viol, inceste ou grossesse précoce. Les avortements clandestins sont une des principales causes de la mortalité maternelle. Voici un reportage de Jennifer Lasuta à Dakar, interprété par Michel Joseph.
Selon une estimation de l'OMS, 10% des décès de femmes enceintes au Sénégal sont dus à des complications liées à des avortements clandestins ou dangereux. 60% des avortements illégaux sont pratiqués sur des femmes entre 19 et 25 ans. De nombreuses filles et femmes qui sont célibataires ou ont été violées disent ne pas avoir eu d'autre solution, soulignent des experts. Le docteur Amine Daoufal, président de l'Association des femmes médecins du Sénégal, dit que les avortements clandestins sont de plus en plus courants.
Avant, il fallait chercher un professionnel de la santé pour se faire avorter. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font ? Les gens se font avorter eux-mêmes. Il y a l'Internet, tout est ouvert. Et donc, les gens vont chercher l'information là où ils veulent. En tant que médecin, donc nous sommes concernés directement par la question. Les avortements sont des questions de santé.
L'avortement est illégal au Sénégal. Une exception a été ajoutée à la loi en 1967, qui le permet seulement si la vie de la mère est en danger imminent. Mais dans un tel cas, trois médecins doivent témoigner au tribunal au nom de la femme avant de pouvoir effectuer l'avortement. Une longue et coûteuse procédure, déplorent les observateurs. Fatou Kiné Camara, président de l'Association des juristes sénégalaises, estime que cette loi doit être amendée d'urgence.
La définition d'une loi, c'est de protéger la santé des populations d'une manière générale. Pourquoi ? Pour sauver la vie de la mère, pour préserver sa santé physique, pour préserver sa santé mentale. Mais est-ce réellement le cas ? C'est-à-dire que ce sont des lois très restrictives.
La juriste dit que les femmes au Sénégal qui se font avorter peuvent faire face à 10 ans de prison et jusqu'à 200 $ d'amende. Les médecins effectuant des avortements illégaux peuvent voir leur licence suspendue ou révoquée et faire face à des peines de prison et des amendes similaires. Madame Camara ajoute que les lois restrictives sur l'avortement ont également conduit à une augmentation des infanticides, surtout dans les milieux pauvres où les grossesses non désirées sont fréquentes. Les agents de santé font pression pour un meilleur accès à la contraception d'urgence, comme la pilule du lendemain. Mamadou Sow, pharmacien à Dakar, dit que les besoins des jeunes sont largement entravés par certains tabous sexuels ancré dans la tradition.
Par mon travail que je fais au niveau de la pharmacie et par rapport aux réalités locales dans nos quartiers, par rapport également aux réalités, par rapport au déficit de communication sur la sexualité au niveau des familles, par rapport également aux besoins des jeunes filles, par rapport surtout à la santé reproductive, nous pensons que la contraception d'urgence constitue le meilleur élément pour diminuer donc les grossesses non désirées.
Selon le Consortium international pour la contraception d'urgence, seulement 0,2% des femmes au Sénégal disent avoir eu déjà recours à la contraception d'urgence et seulement 8% des femmes en âge de procréer utilisent un moyen moderne de contraception. Le ministre de la Santé soutient les activités de planification familiale et travaille à éduquer les gens sur les dangers des avortements clandestins, tout en examinant la possibilité de permettre un avortement médicalisé dans certaines circonstances, mais dit n'envisager aucune loi pour l'instant.
La Voix de l'Amérique au Sénégal sur Top FM à Dakar et Radio Al-Fayda à Kaola.
On enchaîne avec les sports. Présentation Nicolas Pinault. Alors en football, l'Ivoirien Serge Aurier est toujours en Afrique.
Hospitalisé à Yaoundé en marge de la rencontre entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, Serge Aurier s'est remis du choc qu'il avait reçu à la tête. Son état est rassurant, mais le latéral droit de 21 ans est toujours à Abidjan où il a été transféré. Il devrait passer un scanner de contrôle avant de revenir en France pour des examens complémentaires.
Un autre Ivoirien dont on parle dans les transferts.
Passé par le Paris Saint-Germain, Amara Diané va désormais évoluer en deuxième division en Belgique. L'attaquant ivoirien de 32 ans, qui a aussi porté les couleurs de Strasbourg et de Reims, a signé avec l'AFC Toubize. Il était libre depuis son départ d'Aldafra.
Et c'est un changement d'époque au Portugal.
Paolo Bento a quitté son poste de sélectionneur de l'équipe nationale d'un commun accord avec la fédération après le fiasco de la Coupe du Monde cet été au Brésil, où l'équipe emmenée par la vedette Cristiano Ronaldo a été éliminée dès le premier tour. Le Portugal a été battu à domicile par l'Albanie 1-0 dimanche dernier lors du premier match de qualification pour l'Euro 2016. En poste depuis septembre 2010, l'ancien joueur international de 45 ans avait prolongé en avril dernier son contrat à la tête de la sélection portugaise jusqu'à l'Euro 2016.
Suite du mondial de basketball homme en Espagne, on connaît déjà le premier finaliste, Team USA. C'est sans surprise que les Américains se sont imposés 96-68 face à la Lituanie qu'ils avaient déjà survolée il y a 4 ans.
Ils affronteront la France ou la Serbie qui s'affrontent. En quart de finale, la France avait fait mordre la poussière au pays organisateur, l'Espagne, 65-52.
Et pour finir, le cyclisme avec un coup d'œil au Tour d'Espagne, la Vuelta.
L'Italien Fabio Aru a remporté ce jeudi la 18e étape, son deuxième succès de cette édition, en s'imposant au sommet du Monte Castrove. Chris Froome a légèrement réduit son retard au général sur Alberto Contador, toujours maillot rouge de leader.
Et maintenant, il est temps de retrouver la musique. Et la musique, c'est bien sûr Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Camille. Alors que Christina Aguilera prépare son album, attendu en 2014, la chanteuse a accepté de partager le titre Say Something avec le duo américain A Great Big World.
Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you.
Alors Roger, Say Something est un numéro 1 du classement digital US et numéro 4 dans le hit parade américain.
Oui Camille, ses fans pensent que c'est le début d'une nouvelle ère pour Christina Aguilera. Après avoir essuyé plusieurs échecs depuis l'album Bionic en 2010, la chanteuse a visiblement décidé d'opter pour un album fort. C'est vraiment une belle histoire cette rencontre de Christina Aguilera et le duo A Great Big World.
Merci Roger et à demain.
À demain Camille.
Roger Muntu que vous suivez dans RM Show chaque jour à 20h temps universel.
Just starting to crawl. Say something, I'm giving up on you. I'm sorry. Followed you. Say something, I'm giving up on you. And I will swallow my pride. You're the one that I love. And I'm saying goodbye. Say something, I'm giving up on you. And I'm sorry that I...
Merci à Roger Muntu pour la musique. Merci à Anne Albertson pour l'actualité. Au micro, Camille Grodidier sur la Voix de l'Amérique. Et bien sûr, merci à vous tous de nous avoir accompagnés ce matin et une très bonne journée.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.